frère Antoine, bienvenue, ravi de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France.
Merci beaucoup.
Et pour un événement heureux d'importance qui se déroulera au monastère de Saint-Maximin dans le Var. Ça s'appelle Sacrée Polyphonie et ça se jouera du 7 juillet au 9 juillet. Frère Antoine, on n'est pas loin de Saint-Maximin de la Sainte-Baume, un lieu depuis Lacordaire qui est quand même en grande partie pour les Dominicains et avec les Dominicains, c'est bien ça?
C'est ça, et on n'oublie pas les Dominicaines.
Et les Dominicaines, et qui sont de la partie pour ces polyphonies aussi.
Exactement. Donc oui. On sera avec les frères, on sera chez les sœurs à partir du 1er juillet. On travaillera notre programme de concert du 1er au 7, avec une chef de chœur qui vient pour nous former. Et donc le concert, le 7, puis le 9.
Cette chef de chœur, c'est Bénédicte Pereira. Et il vous est venu l'idée, je crois que ça se joue depuis 2-3 ans.
Alors non, c'est que la deuxième édition.
Ah, la deuxième, j'avais dit deux.
Mais moi, c'est ma décision à moi, parce que la chose a déjà été faite avec une autre chef d'une autre génération, qui s'appelle Eliane Lavaille, mais c'était plutôt il y a 20 ou 25 ans. Et depuis, il y avait eu comme un grand trou. Et quand moi, j'ai eu cette idée, on m'a dit « Mais tu n'as rien inventé, mon petit, ça a déjà été fait ». Et donc, j'ai repris le titre, les voix dominicaines, et cette idée d'avoir des frères qui chantent ensemble. Ce qui est nouveau cette année, c'est d'avoir des voix de femmes, et donc d'avoir des sœurs dominicaines avec nous. Mais les voix sont toujours dominicaines, sauf que ce sont les voix des frères dominicains et des sœurs dominicaines.
Alors, ça fait deux éditions. Pouvez-vous peut-être un peu nous dire quelques retours sur ces polyphonies où vous avez, vous, de votre côté, demander à certains frères, à certaines sœurs aussi, de venir pour jouer un répertoire, qui va de Palestrina à Bach, passons par Liszt.
Tout à fait. Alors l'an dernier, c'était un peu la première. On a fait venir des frères d'un peu partout, de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, de Lyon. Il y en a même un qui est venu du Canada, un qui est venu d'Égypte. Et on a fait cette mise en place au couvent de Marseille pendant une grosse semaine. Donc là, c'était une première chose intéressante pour des frères qui, d'habitude, on répète toujours pour un office une heure avant, parfois un jour avant quand on est un peu organisé. Mais là, pour la première fois, on avait vraiment une semaine de vrai travail de chant. Et c'était vraiment une très belle expérience de pouvoir, entre frères, se laisser tirer vers le haut par quelqu'un qui a des objectifs assez hauts dans sa tête, dans sa formation professionnelle, quoi. Et pour nous, c'était vraiment très beau de pouvoir vraiment rentrer dans un travail de la musique. Et il y avait une expérience donc un peu esthétique, entre guillemets, d'essayer de faire toujours plus beau. Mais petit à petit, on a tous vu, c'était assez beau, les frères, que travailler sur l'esthétique, sur la beauté du chant, sur la justesse, ça nous invitait à rentrer vraiment dans le texte, dans les paroles. 100% du répertoire, c'est du texte sacré. C'est vraiment la marque de fabrique. Et moi, mon idée était, je trouve un petit peu dommage que ces pièces-là, un petit peu exigeantes, un petit peu compliquées, sont très souvent chantées dans les salles de concert. C'est très bien qu'elles le soient, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu dommage que des pièces qui sont nées dans les églises se retrouvent à être chantées que dans des salles de concert ou dans quelques lieux d'exception où on les chante encore. Et on s'est dit, nous, on est des frères et des sœurs qui chantons pas trop trop mal. Peut-être qu'on pourrait simplement, par notre présence, le fait qu'on soit en habit en train de chanter ces chants, rappeler simplement le lieu d'origine de ces pièces-là, le fait qu'elles sont des prières, elles sont des paroles de la Bible. Elles parlent de Dieu, elles en parlent très bien. Donc certains vont être attirés par la beauté, par l'aspect attirant de ces pièces. Et sur le programme, on essaye toujours de mettre la traduction, d'expliquer pendant le concert ce que veut dire le texte, qu'est-ce que ça dit du rapport entre Dieu et l'homme. C'est assez court, on n'en fait pas une grosse prédication, mais en tout cas, quand c'est un prêtre qui vous raconte ce que dit le chant, je trouve que c'est pas tout à fait pareil que quand c'est juste dans une salle de concert, on nous a dit les détails, la date, l'époque, pourquoi le chant est intéressant. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de rentrer dans le mystère que chante le chant. Et le deuxième grand contact avec les publics, c'est à la sortie. Parce que tout simplement, ils viennent nous voir en disant « Mais voilà, ça m'a rappelé telle messe quand j'étais petit » ou « Vous savez, mon père, moi j'ai grandi chez les sœurs ». Enfin, il y a vraiment les petites choses qui restent parfois chez un public qui n'a plus de lien avec le sacré. Et à l'occasion de ces concerts a été une prise de contact comme ça avec des frères, des sœurs pour pouvoir échanger sur ce que c'est que la beauté, ce que c'est que le sacré, ce que c'est que la vie spirituelle. Donc ça, c'est que du bonheur, et pour nous qui aimons partager notre foi, et pour les personnes qui étaient ravies de faire ces rencontres qu'elles n'auraient pas faites autrement.
Alors vous parlez de ce public qui, en effet, a connu une époque certainement plus exigeante à bien des niveaux, que ce soit au niveau de la formation musicale ou formation intellectuelle. Est-ce que vous pensez que c'est le seul frein qu'il puisse y avoir à notre époque dans ce divorce entre la beauté et l'Église? Parce que ça reste encore dans le cœur et dans la pensée de bien des Français que l'Église est un lieu qui est beau, qui est au service de la beauté et où on se plonge facilement dans une atmosphère qui nous rapproche du ciel, en fait.
Moi, je pense, je ne dirais pas le mot divorce. Il me semble quand même qu'on en revient un petit peu. Je vois en particulier chez les jeunes, il y a un vrai désir d'avoir des belles célébrations, de chanter des belles choses. Par contre, peut-être un manque d'audace parfois, je pense, dans le travail qu'on peut fournir pour mettre en place une belle pièce. Mais encore une fois, d'expérience, même avec des jeunes qui n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup de compétences, quand on prend le temps et qu'on leur fait faire l'effort d'apprendre l'aveyron de Mozart ou un petit Palestrina qui va prendre un peu plus de temps que les chants habituels, il y a vraiment une vraie joie d'avoir chanté quelque chose de beau et quelque chose qui reste, quelque chose où on sent qu'il touche à une tradition qui est beaucoup plus profonde que simplement le dernier chant à la mode qui circule. Et ça, je crois qu'ils ont maintenant vraiment une vraie honnêteté de dire qu'il y a. Il y a un peu des degrés quand même, je pense, dans les chants et dans la musique, et qu'il y a certaines choses qui sont un tout petit peu au-dessus. Ça ne veut pas dire que les autres sont interdites. Moi, je suis pour qu'il y ait un peu de tout qui soit exprimé et qu'on puisse en avoir pour tous les goûts. Mais en tout cas, il y a pas de, je ne sens pas une grande hostilité, moi, à ce répertoire ancien et
En tout
sacré,
cas,
si
oui, chez les nouvelles
chez nous.
générations, chez les nouveaux qui en ont peut-être trop soupé ou qui ont peut-être été écœurés d'une facilité consommable à tous les niveaux et qui reviennent à un goût pour l'exigence ou l'objectivité dans.
Peut-être, oui. Ou alors simplement qui n'ont pas tellement vécu négativement le passage de l'un ou l'autre, ou qui simplement, on a de plus en plus ça, moi je trouve aujourd'hui, une jeunesse qui est pas forcément dans le combat contre ou avec, mais qui on lui propose différentes choses et elle choisit de ce qu'elle trouve belle, ou ce qu'elle trouve jolie, ce qu'elle trouve moins jolie. Donc ça, c'est un bonheur, je trouve, de pas avoir un côté trop politisé dans notre démarche à nous. Il y a un côté très neutre. Voilà, on vous propose quelque chose qui est simplement la belle et sublime tradition musicale de l'Occident. Et cette tradition musicale belle et sublime de l'Occident, elle s'enracine vraiment dans la musique sacrée. Et c'est assez lisible pour tout le monde. J'ai vraiment eu zéro réaction négative sur les parvis des églises, que ce soit chez les pratiquants ou chez les plus éloignés. Tout le monde trouve ça très, très lisible que ces très belles pièces aient leur place dans l'église, dans la prière. Moi, je n'ai pas eu tellement de côté polémique sur on a cassé la liturgie, on a cassé la musique. Les gens étaient heureux de venir les écouter. Bien sûr, moi, mon objectif un peu derrière aussi, ce soit que pour les frères qui font ce travail année après année, puissent ensuite intégrer de manière simple ce répertoire et qu'on puisse, telle ou telle célébration, telle ou telle fête, se dire, tiens, ça on le connaît bien, ça ira beaucoup plus vite pour le répéter. Peut-être qu'on peut le faire non pas seulement en concert, mais aussi pour telle liturgie, pour telle célébration. Et je crois qu'il y aurait un accueil très positif, enfin, pour l'instant, de ma petite expérience, quand on fait l'effort de monter telle ou telle pièce. Il y a ce bon accueil des fidèles qui, même s'ils ne peuvent pas chanter tout pareil qu'avec d'autres cantiques, dans une écoute priante, sont vraiment attachés à ce répertoire. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je suis un peu idéaliste, mais je sens pas trop d'hostilité, moi, à ces pièces, si elles sont bien chantées, de manière apaisée, sans que ce soit pour s'enfermer entre chanteurs et laisser l'assemblée sans rien faire, mais au contraire, d'offrir une musique qui emporte, qui va toucher au cœur des gens. S'ils peuvent avoir le texte sous les yeux, c'est encore mieux pour voir ce qu'on est en train de leur dire et comment on fait rentrer par la beauté le message dans leur cœur. C'est vraiment une voie royale, je trouve, cette fameuse via pulchritudinis, la voie de la beauté qui permet simplement à la parole de Dieu de rentrer dans le cœur parce qu'elle est magnifiquement dite, magnifiquement chantée. Enfin,
Et
magnifiquement, c'est si on travaille bien, bien évidemment. Hein.
cette via pulchritudinis, c'est pas évident à dire du tout, cette voie de la beauté, donc, qui me fait penser, pour citer Diderot de funeste mémoire, en parlant de la nature, ce n'est pas une éloquence qu'on entend, mais une persuasion que l'on respire. Vous êtes des frères prêcheurs, donc l'éloquence a beaucoup de place chez vous. Est-ce que aussi ça a nourri quelque part, quelques zones de votre corps, de votre incarnation, de votre âme? Est-ce que ça vous a ajusté un petit peu à la liturgie, à la beauté qui est éternelle et qui est céleste, oui?
Ah ouais, ça résonne tout à fait avec notre mission propre, hein. Je suis assez sûr, moi, que si Saint-Dominique prêche, c'est pas d'abord parce qu'il parle bien, mais c'est parce qu'il est saisi par la puissance et le contenu de la parole. Et tous les grands prédicateurs ne sont pas d'abord des orateurs ou des gens qui ont une technique de la parole, je pense. Ce sont des gens qui sont saisis par le contenu même de la parole. Et je crois que la grande musique sacrée, ce n'est pas d'abord des effets d'esthétisme, c'est pas d'abord tel retard 4-3 bien placé au bon endroit, c'est d'abord un compositeur ou un artiste qui se laisse toucher par une parole. Et souvent, on le voit, hein, quand les endroits dans la musique où on est le plus touché correspondent à des textes très beaux. Si le Requiem de Mozart, que tout le monde connaît bien, les passages qu'il trouve, que les personnes trouvent le plus sublime, le plus beau, sont souvent là où le texte est le plus poignant, le plus saisissant. Parce que le bon Mozart, il est au service du texte, il n'est pas là juste à mettre son talent et en rajoutant du texte par-dessus.
Et là où
Et je
c'est
crois que.
le plus manifeste, c'est dans le chant propre de l'Église catholique, qui reste le chant grégorien, où tout est là pour appuyer la parole et au
Tout à
service
fait,
de la
oui.
parole.
Tout à fait. J'aime bien l'expression du fait que le grégorien chante la parole. C'est tout simple comme expression, mais c'est tellement vrai. C'est la parole est vraiment le matériau de la musique, et c'est simplement une espèce de danse et de chant autour des syllabes de la parole de Dieu. Et la grande polyphonie qui s'en approche, Palestrina Victoria, sont pas très loin, hein. C'est vraiment, même si on a les quatre voix, on a quand même une attention qui est assez proche, je trouve, d'avoir un texte qu'on va coller au plus près en mettant la musique à son service. Et on va dans notre programme depuis ces proximités du grégorien jusqu'à des choses beaucoup plus contemporaines. On aura Hola J-Lo qu'on avait déjà chanté l'an dernier, ou Arvo Pärt que tout le monde aime bien. On retrouve, je trouve, cette espèce d'humilité, de simplicité de la musique par rapport au texte. Ça, c'est vraiment une grâce, je trouve. Je suis pas très expert pour le niveau de foi personnelle de ces compositeurs-là, ou leur rapport à la foi, j'en sais pas grand-chose. Mais je pense ils s'inscrivent dans cette belle tradition d'une musique assez sobre, avec un texte qui sort très bien, et qui se laisse tranquillement couler. C'est une vraie joie de pouvoir parcourir l'histoire comme ça, et avec à chaque époque des choses sublimes de polyphonie et de parole de Dieu.
Frère Antoine, vous êtes un dominicain et j'ai envie de vous demander comment on voit le bonheur sans fin que vous éprouvez et que je suis persuadé, tous ceux qui sont en contact avec ce rayonnement, cette beauté, vivent aussi. Mais comment, à notre époque, comment faire transmettre ou faire goûter cette particularité, cette exigence, comme vous, chez vous, vous avez la joie de fréquenter une des plus hautes intelligences que l'Église a données à tous ceux qui veulent penser correctement, qui est Saint Thomas d'Aquin. Et de la même manière, pour le chant liturgique ou le chant et la beauté, il y a aussi des personnes qui se détachent, il y a aussi des façons de faire, il y a des grands axes. Et dans notre époque, comment est-ce que ça peut porter du fruit, cette assurance objective que vous avez, je pense, comme bien nos auditeurs, que quelquefois c'est beau, c'est sublime, et quelquefois c'est tout simplement médiocre ou indigent, comme un raisonnement peut l'être, ou comme un mari ou une femme peuvent l'être dans leur couple, quoi.
Ben, je crois beaucoup à la simplicité, moi. Vous avez dit plusieurs fois dans votre petit mot la hauteur de l'intelligence ou les choses sublimes. Mais finalement, si Saint Thomas est aussi puissant, je pense que sa pensée s'approche de la simplicité de Dieu, finalement, qu'il essaye vraiment de dire avec les mots les plus humbles, les plus pauvres possibles, ce qui est le plus grand. Et avec la beauté, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de similaire. Les pièces les plus belles ne sont pas forcément les plus complexes. Il y a des polyphonies très lentes avec qui s'enchaînent très bien, où la mise en place n'est pas très compliquée. Et pourtant, le public ou l'assemblée, si c'est pendant la liturgie, va dire, mais cette pièce-là, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus beau, alors qu'on y a passé 5 minutes, alors que telle autre pièce nous en a pris 15, qui était beaucoup plus complexe. Il y a une simplicité de la beauté qui coule tranquillement et qui pénètre peu à peu dans le cœur. Je crois qu'il y a cette confiance à avoir dans le fait que le cœur de l'homme est fait pour cela, même si la culture a tendance à ajouter des tas de couches sur le cœur de nos contemporains. Je crois qu'au fond, il reste toujours ce grand gouffre du cœur de l'homme qui est là pour aimer et être aimé par Dieu, pour connaître Dieu et vivre dans sa compagnie. Et quelqu'un qui est en contact avec la beauté, soit de l'intelligence, comme vous avez pu dire, soit la beauté de la musique, bah, cette petite partie, parfois bien tassée au fond du cœur, est toujours là, prête à se réveiller. Et plus on la présente simplement, sans effet de manche, d'une manière simple, avec le sourire, ce qu'on essaye de faire quand on chante, plus on a peut-être des chances que cette petite partie du cœur qui reste ouverte et en recherche de l'union avec Dieu puisse se réveiller et puisse d'un coup s'ouvrir. C'est en tout cas mon but.
Et c'était le but réellement poursuivi. Donc c'était d'ouvrir cette porte à ceux qui vous écoutent pour qu'ils puissent toucher quelque chose du mystère de Dieu.
Oui, on a eu un petit reportage sur KTO et le titre qu'ils avaient choisi, c'était Les voix dominicaines unies pour chanter Dieu. Et c'était pas mon titre, c'était eux qui l'avaient choisi. J'avais trouvé ça assez sympa l'idée. Chanter Dieu simplement, ben voilà, plutôt que de dire la parole comme on le fait d'habitude. Là, on chante Dieu et Dieu est chanté et Dieu est entendu et Dieu est reçu.
Chanter, oui, peut-être parce que Dieu est amour et que l'amour est un chant. C'est ça, j'imagine pas qu'on va. C'est pas une récitation morne et
Non,
plate,
non, bien
non,
sûr, bien
j'imagine,
sûr.
oui.
Mais je trouvais que la formule était assez ramassée, quoi. Plutôt que dire oui, chanter des chants qui ont un rapport avec le sacré et donc quelque chose, le journaliste qui n'était pas un grand croyant avait trouvé ce titre, paf, assez bien, être unis pour chanter Dieu. Le fait d'être ensemble et de chanter, le fait d'être, on est quand même 14 chanteurs, je crois, cette année, donc 14 personnes qui ont chacune leur histoire, leur vie, leurs problèmes, leur communauté, qui vraiment font l'effort de faire une seule voix, de faire une seule musique, est déjà un signe très beau de ce que c'est que l'unité de l'Église, que l'unité des hommes à laquelle le Seigneur nous appelle. Et l'objectif de cette unité, ce jour-là, c'est simplement d'offrir quelque chose à Dieu. C'est pour ça que c'est important que nos concerts restent. Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de prix à payer à l'entrée. Tout le monde peut rentrer, n'importe qui, même s'il y a une corbeille à la fin parce que ça coûte un peu de sous quand même à organiser tout ça. Mais on tient à ce que cette beauté-là soit accessible. S'il y a un SDF qui passe devant la porte, on en avait l'an dernier des gens qui passaient dans des quartiers, qui rentraient, qui passaient le concert à écouter. Ils trouvaient c'est un vrai cadeau quoi, de pouvoir passer 1 heure à écouter des belles choses. Il y a quelque chose de très gratuit dans cette offrande musicale.
Alors vous le dites, hein, être unis pour chanter Dieu, mais peut-être la différence, c'est être unis pour chanter Dieu, mais pas n'importe comment. Donc, et dans cette porte-là, bah, il y aura certainement des étapes pour ceux qui se sentent touchés, et pour grandir de plus en plus, ou pour avancer de plus en plus dans ce mystère de la beauté. Et en tout cas, frère Antoine, l'annonce est faite, hein, pour nos auditeurs. Je rappelle que c'est au monastère de Saint-Maximin que c'est des frères dominicains et des sœurs dominicaines qui se retrouvent.
C'est ça, c'est le seul petit défaut de cette année. L'an dernier, avec les frères, on avait pu faire toute une petite tournée. On avait fait Sanary, on avait fait la côte tranquillement. Mais là, comme c'est au monastère avec les moniales, eh ben, elles sont dans la clôture. Et donc le concert sera depuis la clôture. Et il faut que ce soit le public qui se déplace jusqu'au monastère pour écouter les concerts. Mais j'ai confiance, ils viendront.
Ils viendront et grand bien leur fasse. En tout cas, tout ceci, vous avez été formé sous la direction de Bénédicte Pereira, donc c'est la troisième édition.
Deuxième
Mais
édition,
je fais
mais
toujours la même erreur. Je ne suis pas non plus
c'est pas grave,
journaliste, quand
c'est pas grave.
même.
Il y avait des éditions précédentes il y a une vingtaine d'années, ça compte pour un, vous êtes dans le bon chiffre.
Frère Antoine, un grand merci de votre passage sur nos ondes de Radio Maria France. Je rappelle qu'ils pourront prendre toutes ces informations aussi. L'émission sera remise en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, ça a été notre émission interview témoignage. Il y était question du concert sacré Polyphonie. Nous étions avec Frère Antoine. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.